Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à ce soir, le kilo de pavé de saumon atlantique est à seulement 17,99€.
À ce prix-là, on va remplir les assiettes, le frigo et même le congélo.
Vous aimez le saumon, est-ce que je vois? Vous faites les stocks?
Oh, comme si vous n'alliez pas venir goûter un de mes plats.
Si vous insistez...
Eh ben j'insiste.
Auchan, avec plaisir. 17,99€, le kilo de pavé de saumon atlantique, élevé en Écosse ou en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, mes petits camarades, des GG, vos portables, s'il vous plaît. Monsieur Médiguézard, il a deux portables. Donc,
non, il y en a un moins.
Les portables. Madame Kaouter Ben Mohamed, monsieur merci. Kevin Bossuet, s'il vous plaît, merci de cette
émission. Monsieur Marchal est très sérieux parce que même quand on essaye de toucher, on
n'y
arrive pas.
Hein. Je remercie Kaouter de
les macroutes
à la santé des GG puisqu'elle nous a apporté des macroutes, pâtisseries tunisiennes, orientales
de manière générale. Mais ceux-ci ne sont pas à la pâte de date comme le veut la tradition.
Pour, la ligne, pour garder la ligne,
ils sont aux amandes et ils sont frais. Et la pâtisserie d'Aix que je remercie, qui est une pâtisserie ancestrale où j'allais petite avec mon grand-père.
C'est très léger. Si t'en prends un maintenant, si tu vas
mettre c'est très bon. Mais dis, est-ce que c'est bon ou pas?
C'est très bon, mais voilà. Là, c'est sûr que d'ici dimanche, je mange plus. Voilà.
Mais il faut tu en as un
dans le ventre,
c'est
t'as un
tout.
Parfum dans le ventre.
Tu en as pris non, moi, je suis pas fanat non plus. Hein, mais... Si tu sens tes artères se boucher
mais
instantanément.
Mais
Non mais c'est super. Par contre c'est super bon. Mais après t'as plus faim. En fait c'est un coupe-faim. Tu sais c'était le.
C'est un coupe-faim mais
ça a été le premier. Comment il s'appelle le truc? L'anneau gastrique. C'est le premier anneau gastrique au monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça.
Sucre.
Ah il te bloque direct sur place. Voilà.
La suite des grandes gueules. Tout à l'heure à 11h20 on va avoir une discussion à propos de la modulation des indemnités chômage. Ça a été voté par l'Assemblée nationale. Et cette modulation va opérer de la manière suivante. On réduit, lorsqu'il y a période de croissance et d'emploi, on réduit les indemnités chômage. Et au moment de tension, au contraire, à ce moment-là, on pourra être plus souple pour les indemnités chômage. Le but du jeu étant de remettre les gens au travail. Alors, est-ce que ça peut être efficace, oui ou non? Vous venez en parler avec les grandes gueules tout à l'heure à 11h20. En attendant, on est sur le « À vous de choisir ».
RMC, les grandes gueules.
À vous de choisir.
À vous de choisir deux sujets de discussion proposés sur internet rmc.fr. Congé menstruel, deux tiers des salariés qui sont favorables au congé en cas de règles douloureuses pour les femmes, ou bien le plan de sobriété énergétique du gouvernement qui sera présenté cet après-midi. Vous aviez envie de parler du plan sobriété du gouvernement présenté porte de Versailles tout à l'heure avec 6 ou 7 ministres qui seront présents et Madame la Première ministre conclura la présentation par un discours.
Je crois qu'on a même le spot publicitaire du gouvernement qui sera présenté, on va peut-être le montrer, qui sera présenté cet après-midi. C'est un spot qui va beaucoup tourner et qui montre les gestes, les éco-gestes qu'il faut faire. Je baisse, j'éteins, je décale. Donc un peu moins de température, un peu moins de bain, j'éteins mon ordinateur. J'éteins, je fais pas les machines entre 18h et 21h, bref. Mais vous allez voir cet après-midi, c'est très impressionnant parce que c'est 4 mois de travail, 300 acteurs rencontrés, une quarantaine d'experts sollicités. C'est le gouvernement qui dit ça, tu dis waouh. Et alors finalement, tu as les premières mesures, il y en a peut-être d'autres cet après-midi. C'est quoi les premières mesures? C'est plus d'eau chaude dans les sanitaires des bâtiments administratifs. C'est-à-dire que par exemple, Kevin Bossuet, fonctionnaire, va devoir se laver les mains à l'eau froide pendant tout l'hiver. Donc bravo Kevin.
Merci.
Baisse de la vitesse des véhicules de service, 110 au lieu de 130. 100€ pour toute inscription sur une plateforme de covoiturage. On va diminuer l'éclairage des stades et on va éteindre les enseignes lumineuses entre 1h et 6h du matin. Tout ça, ce sont des mesures incitatives. Il n'y a pas c'est pas coercitif. Est-ce que sincèrement, ce grand plan de sobriété qu'on va nous présenter cet après-midi, ça va durer à peu près 3-4 heures, est-ce qu'on l'attendait? Est-ce que c'est utile?
Monsieur Bossuet, Kevin.
Disons que c'est un grand plan de communication. Cela laisse penser que le gouvernement s'occupe de quelque chose, a compris les enjeux de ce qui nous touche aujourd'hui. Mais franchement, c'est ridicule. Je regardais le spot, là, on nous demande en effet d'éteindre notre ordinateur, de baisser d'un degré, etc. Enfin, moi, je trouve ça aberrant. Enfin, quand on est des citoyens un minimum éclairés et responsables, on a compris qu'il fallait faire des efforts au niveau énergétique. Bon, on va le faire soi-même sur des sur des secteurs, des éléments qui nous plaise en fait entre guillemets. Donc moi je trouve que c'est de l'infantilisation et je trouve que ça a l'effet inverse, parce que moi je suis peut-être un gaulois réfractaire, mais quand on me demande par exemple de baisser mon chauffage, j'ai plutôt l'envie de faire l'inverse en fait. Donc voilà, moi je trouve ça, ouais, mais vraiment moi je trouve ça complètement débile en fait, aucun intérêt, aucun sens.
Et le plus d'eau chaude dans les bâtiments administratifs, ça te concerne?
Ah bah déjà il y a de l'eau c'est déjà pas mal, parce que parfois il y a pas d'eau dans les bâtiments administratifs.
Je confirme.
Kaouter.
Non, c'est ridicule en fait, on attend pas ça de nos politiques, tu vois, donc on sait pas. À chaque fois, on croit qu'on a atteint le fond, en fait. Et à chaque fois, ils arrivent à nous surprendre, tu vois, dans la débilité, parce que c'est de la débilité.
Bah, éteindre les appareils en veille, mettre
oui,
19
ça,
dans
si
les pièces
veux.
Principales, décaler l'usage des machines à
mais
laver.
Mais tu t'adresses à qui, en fait? Si tu t'adresses, alors je vais faire un peu, je vais citer une de...
Là, oui,
voilà, exactement. Si tu t'adresses à Sarah Salman, par exemple, elle n'a rien à foutre, elle va continuer à prendre ses 2 BM par jour. Voilà. Et après, les plus précaires d'entre nous, ben, font déjà ses efforts.
Tout le monde.
Oui. Les plus précaires.
Mais même pas que les précaires, je pense que tout le monde fait attention.
Voilà, tout le monde fait attention de manière générale, mais
même Sarah Salman, je pense.
T'as pas tellement envie de payer
certaine.
Cher ton électricité.
Notre chère Sarah,
non, mais même
si tu nous écoutes.
Le lave-vaisselle, la machine à laver.
Sarah, elle prend
la
deux
programme le soir tard.
C'est ça,
voilà,
c'est ça. Tout le monde, quand on s'en va, on était à la multiprise. Voilà, on le fait tous.
On attend pas des gouvernants d'ouvrir les portes ouvertes.
C'est même pas des portes ouvertes. Voilà, c'est. Il y a rien, en fait. C'est du rideau. Comme s'il y avait un rideau, tu souffles sur le rideau avec ta bouche, quoi. Il faut arrêter à un moment donné. À quoi servent nos gouverner, c'est prévoir. Donc, à quel moment?
Justement, ils sont pas prévus. Donc, c'est pour ça qu'ils nous demandent de faire des économies.
Oui, mais faire des économies. Excuse-moi. Quelles économies? J'avais proposé déjà ici que la Fédération du bâtiment se penche à travailler avec des écolos, mais pas des écolos de pacotis qui font des plateaux télé. Ceux qui travaillent vraiment sur la construction des bâtiments pour que ce soit économique, tant en été qu'en hiver, tu vois, pour que ce soit plus isolé. Aujourd'hui, il y a un gouffre dans les vieux bâtiments. Il n'y a pas d'aides qui sont adaptées aux personnes qui sont... Il y a plein d'aides, mais ça part dans tous les sens, etc., etc. Les gens, c'est déjà, si tu rénovais les bâtiments, tu aurais beaucoup moins de gaspillage en termes d'énergie, en termes de chauffage, etc., etc. Ça crée en plus des maladies derrière, de l'humidité, des personnes qui n'arrivent pas à respirer. Aujourd'hui, en fait, tout le monde parle, tout le monde présente des plans de sobriété, mais il n'y a aucune mesure qui est faite pour isoler les logements, pour se donner aux
personnes... Il y a des primes.
Alors, oui, mais ça ne suffit pas.
Mais ça ne suffit pas et ça ne fonctionne pas. C'est des tas de paperasse et à la fin, on renonce.
Alors,
c'est
hyper lourd. Ce matin, Emmanuel Macron a déclaré. Il a appelé les Français, il nous a appelé à se mobiliser. Si on se mobilise tous, on passe l'hiver, dit le chef de l'État.
Mais tu te rends compte de quoi que
ça va diminuer l'éclairage dans
on
les stades.
On passe l'hiver, Mehdi, sois pas désespéré.
Mehdi, je te signale que Parc des Princes, il faudra que tu viennes avec ta lampe torche, hein, parce qu'on va diminuer l'éclairage des stades.
Diminuer l'éclairage des stades.
Ça va aider Nice.
C'est peut-être
pour l'Olympique de Marseille,
les adversaires n'ouvriront pas venir, voilà. On aura peut-être une chance de gagner.
Pour l'OM, ça serait bien.
On aura une réduction de 2 degrés dans les gymnases et de 1 degré dans les piscines. Puisque chauffage dans les installations sportives, ça représente 10% de la note.
Est-ce qu'on a besoin de faire un grand plan? C'est surtout ça.
Non, mais ils sont fous. Non, mais voilà, c'est tellement
grave. Mais Macron, elle a dit ça
nous laisse
devant...
pas droit à tous.
Mehdi, devant les entrepreneurs comme toi, Mehdi, il a dit si on s'oblige tous, on passe l'hiver.
C'est fatigant.
Même s'il est rouge.
C'est épuisant. C'est du tapage de communication intempestive, perpétuel de tous et de tout le monde en disant il faut faire ça, il faut baisser ça, il faut aller là, il faut pas aller là, il faut marcher droit, il faut faire attention. Enfin, à un moment, tu sais, quand on parle du moral des Français, quand il y a des opinions, les opinions way, il y a les BFM, je sais pas quoi là, avec les sondages. Et qui te disent que le moral des Français est au plus bas, mais c'est normal. En fait, le moral ne peut pas être haut, parce que à chaque fois que tu ouvres ton journal ou tu allumes ta télé, c'est une direction de plus où il faut aller, comment il faut le faire, ou comment tu peux le faire. Est-ce que tu as le droit de faire ça? Est-ce que tu n'as pas le droit de faire ça? Ça devient lourd, quoi. Putain, c'est chiant. Je suis désolé, mais t'imagines que on est dans une période où moi je paye quelque chose, mais c'est toi qui me dis comment je dois l'utiliser, cette chose.
Voilà. Bah,
c'est très pervers comme truc, hein. Je sais pas.
Beaucoup d'impôts.
Je paye. Non, mais on parle même pas des impôts. Ta facture de gaz ou d'électricité, c'est toi qui la payes. On est bien d'accord. Et tu la payes beaucoup plus cher que d'habitude. Mais on te dit attention, tu vas payer plus cher, mais en même temps, on va te dire comment l'utiliser. C'est fort de café. Voilà, c'est tout ce que
après,
je
peux dire. C'est fatigant. Il y a peut-être quand même une petite entourloupe politique, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron qui ce matin nous dit on va tous y arriver, on passera l'hiver.
voilà, dramatique. Vous voyez, grâce à l'effort du gouvernement, évidemment, il pourra dire ça au printemps.
Non, mais excuse-moi,
au printemps, il nous dira, écoutez, on a passé l'hiver.
Mon cher Olivier,
non, mais ça s'appelle de la dramatisation. Oui, c'est montrer qu'Emmanuel Macron est le chef de l'État. Il sait où il va.
Et qui nous protège.
Et qui nous protège. Et ça permet également de diviser les Français entre ceux qui vont respecter ce genre de mesures et ceux qui ne vont pas les respecter, comme on a vu avec le port du masque. Donc les Français vont être les uns contre les autres, et finalement ça évite de parler des vrais sujets, des véritables causes de cette situation, l'abandon du nucléaire, etc. Ce n'est que politique, et si j'étais Emmanuel Macron, si j'étais à sa place, je ferais la même chose, parce que ça fonctionne depuis le début. Emmanuel Macron, c'est un génie politique, un pro de la communication, et je peux vous dire qu'au mois d'avril, mai, tout le monde va dire merci Emmanuel Macron, nous n'avons pas eu froid pendant la crise, et ça fonctionne.
C'est cette stratégie de...
Mais c'est vrai,
en fait, c'est le président protecteur.
C'est un coup politique exceptionnel, ce qu'il est en train de faire. Il est en train de réitérer ce qu'il a fait pour le Covid.
Oui, c'est
bien
ça,
sûr.
C'est
il est en train de...
Mais, le président protecteur.
Excuse-moi, hein, mais regarde Olivier Véran, regarde comment Olivier Véran parle. Tu fais Olivier Véran il y a 2 ans avec les masques, avec maintenant l'électricité. C'est du copier-coller, sauf que tu enlèves Covid et tu mets énergie à la place. Hein. Mais c'est du copier-coller. Hein.
Bon, moi, on ne parle pas de ce qu'il faut, en fait. On ne parle pas de ce qu'il faut. Moi, je me suis entretenue avec un restaurateur avant de venir, là. Il y a 20% de hausse d'énergie. Il va peut-être arrêter son activité. Il n'a pas augmenté ses tarifs, etc., etc. Parce que globalement, ce qu'il a eu cette année, 20% de hausse de l'énergie. Une moyenne sur les matières premières de 55%. Il m'a donné ses tarifs. Hein. 55%, c'était la moyenne. Donc, tu as 72% de plus sur le beurre. 300% sur l'huile. L'huile, le litre d'huile est passé de 0,60 à près de 5 euros le litre. 12% d'augmentation sur le poulet, 28% sur la viande, etc., etc. Et donc, si tu veux, bon, il n'a pas impacté par choix le prix sur le prix des clients pour garder ses clients, mais lui, du coup, il a amoindri sa marge. Et à côté de ça, donc c'est un restaurateur de Marseille, il payait une taxe d'ordures ménagères de 1 600 euros à l'année, 1 500, 1 600, et la métropole et la ville, j'ai le document, hein, il m'a permis de le photographier, a pondu, sans aucune explication, une taxe de 900 euros par trimestre d'augmentation, ce qui fait une hausse de 3 900 euros par an, plus les 1 500. Et donc, si tu veux, les professionnels, je ne parle même pas des particuliers, sont étouffés par toutes sortes de charges qui augmentent. Et moi, ce que j'attends, et je pense que les professionnels aussi, et les Français de manière générale aussi, c'est des mesures de comment on fait pour plus que le beurre coûte plus 72%, pour plus que l'huile coûte... C'est ça que nous attendons, ce n'est pas de te dire... Pour être un bon élève, il faut que tu dors à 17 degrés, il faut que tes enfants se gèlent en cours de sport et il faut que presque tu nages avec une combinaison à la piscine. C'est pas ça qu'on attend de nos gouvernants. C'est des mesures concrètes pour nous donner accès. Comme tu dis, tu payes un service, tu t'en sers quand tu veux, en fait. Mais il faut que ce service...
Là, encore une fois, on est dans la stratégie politique. C'est le président protecteur. Je vous ai protégé.
Mais on en a marre de cette stratégie de communication, mon cher Olivier.
Je vais terminer. Je suis le président qui vous a protégé de l'inflation, puisqu'effectivement, il y a moins d'inflation ici qu'en Europe. Alors, ça nous coûte très cher et on s'endette. Et là, je vais vous protéger des coupures d'électricité et de gaz.
Il y en a marre de la com.
Sur cette stratégie, c'est pas de la com, c'est une stratégie politique. Mais si.
Emmanuel Macron s'est fait dire parce qu'il y avait Marine Le Pen en face et que tu as la NUP en face, quoi. Franchement, c'est voilà.
Ça fonctionne.
On va aller dans le Tarn-et-Garonne retrouver Philippe. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Vous allez regarder attentivement ce plan sobriété, là, voir ce que vous pouvez faire, mon cher Philippe. Appliquer.
Alors, écoutez, moi, je vais vous faire part de ma propre expérience. J'ai une maison qui a 30 ans.
Oui.
Que j'ai entretenue. J'ai bénéficié en son temps de crédit d'impôt pour changer mes fenêtres, qui à l'époque étaient des fenêtres en bois de base, premier prix, quoi. J'ai changé mes fenêtres, double vitrage et ainsi de suite. Et il existe encore à l'heure actuelle des dispositifs pour, par exemple, de l'isolation, parce qu'il faut savoir que l'isolation par les combles, les déperditions de chaleur s'évacuent par les combles, et puis à hauteur de 30%, il existe des dispositifs d'isolation par les combles qui vous coûtent 1 euro. Je l'ai fait, moi, récemment.
D'accord.
Je l'ai fait faire par la société Eurocomble, qui est à Bressol, à Montauban, pas dans le Tarn-et-Garonne. Et c'est contrôlé ensuite par le bureau Veritas.
D'accord.
Voilà, de manière à... Et donc, ça m'a coûté 1 euro. Et ils m'ont refait l'isolation complète de ma maison. Et je m'en suis aperçu de suite. On gagne facilement 3 degrés. Et après, il y a les bons gestes, comme disait Kaouter Ben Mohamed. Il y a les gestes qu'appliquaient nos anciens. Hein, le matin, on ouvre les fenêtres, on aère. Si le soleil, du côté où le soleil chauffe, on laisse ouvert pour laisser rentrer la chaleur. Et après, on ferme, on tire les volets, on met les volets en tuiles. Moi, j'ai une pompe à chaleur RR, qui fait clim et chauffage. Avec la canicule cet été, j'ai pas allumé une seule fois la climatisation.
Donc, ce que vous dites, c'est un, les dispositifs pour pouvoir s'isoler, ils existent, ils sont peu onéreux.
Voilà, ils existent, et non seulement ils existent, mais les sociétés sérieuses qui fonctionnent avec l'État, quoi, ils s'occupent de tout, quoi. Vous avez rien à faire, vous avez aucune démarche administrative. Moi, tout a été fait, règle. Là, je vais me lancer dans l'isolation par l'extérieur de ma maison. Ça va me coûter 3 euros.
Donc, il faut un peu se renseigner aussi. Voilà, c'est ce que vous dites, Philippe.
C'est ça. C'est ça. Et il y a des dispositifs qui existent. Il y a des entreprises qui sont sérieuses, celles que je vous ai citées tout à l'heure, par exemple.
D'accord, à Montauban.
Et à moindre coût, une maison qui a 30 ans d'âge, effectivement, tout a évolué. Les nouvelles normes d'isolation, par exemple, la RT 2012. Moi, j'ai ma fille qui a fait construire une maison sous les normes RT 2012. Et c'est sûr que c'est bien isolé. L'hiver, elle a pratiquement pas besoin de chauffer, parce qu'il fait 25 degrés chez elle sans chauffage, pratiquement. Mais l'été, c'est un four, quoi.
Philippe, dans tous les cas, merci d'avoir rappelé ces petits conseils pratiques, utiles, de dispositifs existants.
Et j'invite tous les propriétaires de logements défectueux, voire Engine, et les bailleurs sociaux à prendre exemple sur notre cher Philippe et à isoler les biens dont ils sont propriétaires et qui mettent à location à des personnes qui n'ont pas d'autre choix.
Nous sommes avec Nathalie. Bonjour Nathalie.
Bonjour,
bienvenue madame. Nathalie. Vous allez suivre les conseils sobriété, ma chère Nathalie ?
Alors, moi avec mon mari, ça fait plusieurs années déjà qu'on a commencé à essayer de réduire notre consommation d'électricité.
Oui.
Parce qu'on est en pavillon qui date des années 80, donc l'isolation n'est pas tip-top. On a commencé par faire changer toutes les fenêtres avec du PVC double vitrage déjà.
D'accord.
Avec les aides de l'État, on est passé au poêle à granulés, pareil avec les aides de l'État. Mmh. On a modifié tous nos chauffages pour mettre des convecteurs, bon, que dans les chambres. On a du chauffage autre que le pellet, que dans les chambres, par des convecteurs programmables. On peut programmer les heures, les températures de telle heure à telle heure, voilà. Mmh. On a modifié notre isolation. On a des combles perdus, donc on a tout refait. On a des vieilles laines de verre et on a mis la nouvelle. Et cette année, figurez-vous, c'est très bien. Je suis peut-être la seule en France, je ne sais pas, à rembourser 300 euros de facture.
Vous avez été remboursé à 300 euros de facture, c'est ça ?
Ouais. On a remboursé 300 euros de facture. Bien. Et c'est vrai que vous avez partout
moins consommé par rapport à l'année précédente, fait, c'est ça ?
Ouais. Du coup, on consomme vachement moins. Donc, mes gamins qui sont des geeks, qui sont tous avec des PC, double écran et tout le tintouin, quoi. On a tout mis sur des prises que l'on peut éteindre. Mmh. Et du coup, les multiprises, le soir, dès qu'ils arrêtent de jouer, je leur dis, vous coupez tout.
Écoutez.
Le chauffage, quand vous... Comment ?
Non, effectivement, Nathalie, que ce soit vous ou Philippe qui était juste avant, montre que ça montre tout simplement que les Français, ils appliquent déjà bon nombre de Français les gestes de sobriété,
ils le font par nécessité économique.
Oui,
pas parce que le gouvernement leur dit de le faire.
C'est ce que je te dis, c'est ils le font déjà. Nathalie et Philippe, ils ont procédé déjà à ce qu'ils pouvaient faire simplement parce que ça permet de faire des économies.
Manif, ça sera le gouvernement dira c'est parce que j'ai dit aux Français de participer à cette sobriété énergétique
avec la cape rouge,
avec le plan, etc.
Avec la cape rouge,
nous avons réussi à nous en sortir. Il faut démontrer. C'est ça.
Merci Nathalie d'avoir été vous aussi avec comme Philippe, avec des exemples concrets sur ce que vous faites déjà là du côté de la Manche pour vous isoler et faire des économies d'énergie. Vous avez dit EDF en plus vous a rendu 300 euros. Le plan sobriété, est-ce que c'est un plan utile? Simplement là pendant le petit quart d'heure de discussion qu'on a eu en écoutant Philippe et Nathalie, on avait lancé une consultation Laura. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller.
Non, parce que par la sobriété, on l'a supprimée.
Vous pourrez aller la consulter.
C'est la contribution des grandes gueules ce matin à cette sobriété énergétique.
Non, mais tu vois, on parle de sobriété. J'ai pris le métro là toute la semaine pour faire des examens. Avant, t'avais un panneau publicitaire avec du papier. Maintenant, t'as des immenses panneaux, tu vois, avec des écrans partout, dans chaque rame de métro, tout ça, etc.
Mais c'est de l'économie aussi. Pas mon publicitaire, c'est de la publicité, c'est de l'économie, c'est du business. Moi, je veux bien.
Excuse-moi.
C'est de l'économie en version économique. Oui, pognon. Je crois que c'est de l'économie.
Pognon.
C'est fini. Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, le GG, c'était match. La modulation des indemnités chômage. Est-ce que ça va être efficace pour remettre les gens au boulot, une équipe ou une équipe?
Oui.
Non. Et on vous attend au 32-16.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Suite des GG, des grandes gueules en direct jusqu'à midi. Kaouter Ben Mohamed, président de l'association Marseille en colère. Mehdi Guézard, chef d'entreprise. Kevin Bossuet, professeur d'histoire-géographie. Et on y va pour le GG 7 et match.
RMC.
GG 7 et match.
Avant-hier soir, mardi, l'Assemblée nationale a donc voté ce que l'on présente comme étant une des mesures clés du projet de réforme de l'assurance chômage. Ce qui veut dire que normalement, si c'est définitivement adopté, il y aura une modulation de la durée d'indemnisation selon ce que l'on appelle la situation du marché du travail. Bref, l'indemnisation sera stricte, voire réduite, quand on sera sur un marché d'emploi en croissance avec bon nombre d'offres qui ne sont non pourvues, et elle sera un petit peu plus généreuse, voire prolongée, si on est sur un marché de l'emploi qui est en crise, une situation compliquée. Le but du jeu étant de remettre les gens au travail, et pourquoi est-ce que ça a été décidé, voté? Parce qu'on a vu notamment ces dernières semaines, notamment après le Covid, qu'on avait beaucoup de demandes, et finalement, pas beaucoup d'offres qui étaient pourvues. Alors, est-ce que cette modulation des indemnités chômage, vous voyez, j'ai été condamné là. T'as vu, ça y est, j'ai été conditionné.
La communication du gouvernement a marché.
Exact, ça y est, je suis... Attends, où est-ce que je dois appuyer déjà?
Comme avec Olivier Véran.
Là, c'est ça.
J'ai pas retrouvé
le mouton.
Ça y est.
Il est dans le moule.
Il est là. Hop. J'ai craqué.
C'est qu'il est là-bas. Il a mis un col roulé, moi.
Donc, hein, modulation des indemnités chômage.
Il a changé, ouais.
Est-ce que ça remet les gens au travail, efficace ou non? On en parle. Non pour l'équipe Olivier Kaouter. Oui pour l'équipe Kevin et Mehdi. Ma chère Kaouter, non. 60 secondes, dis-nous pourquoi.
C'est trop 60 secondes parce que c'est une mesure qui est complètement démagogique. Oui, depuis le Covid, le monde s'est révélé être différent parce que le monde du travail aujourd'hui n'est pas adapté au mode de vie d'aujourd'hui. On nous demande de travailler comme en 1920, nous sommes en 2022. Donc il faut aussi peut-être que le marché de l'emploi, les patrons et l'État s'adaptent quand c'est nécessaire. C'est pas pour moi les mesures d'indemnité, enfin c'est pas les indemnités chômage qu'il faut durcir, c'est plutôt travailler à créer de l'emploi, enfin une économie ou une industrie ou des industries dans notre pays, le développer et le pérenniser. C'est comme ça, c'est en offrant du travail bien rémunéré avec lesquels les Français pourront non pas survivre mais vivre correctement que les gens tu les inviteras à travailler et à rester à leur travail. C'est pas en les payant au lance-pierre. Et à ne pas avoir, on a toujours des témoignages qui sont très très poignants par nos auditeurs, des couples ou des personnes seules qui travaillent et qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins et qui donnent un exemple absolument catastrophique à leurs enfants aussi, qui se posent la question de pourquoi on travaille aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous sommes en 2022, le monde doit s'adapter, le monde du marché, du travail doit s'adapter, et nos politiques doivent s'adapter. Nous ne vivons plus, nous ne travaillons
d'accord.
plus. Comme
Kevin.
En 1920.
Non mais il y a de l'emploi dans notre pays. Le problème, c'est que on n'arrive pas à recruter. Je discutais la dernière fois avec un coiffeur qui s'appelle Jean, avenue de Clichy, Franck Provost. D'ailleurs, je le salue parce qu'il était très sympathique.
Il t'a très bien coiffé.
Oui, oui. Non, mais j'ai dit que je le ferais parce que j'avais annulé mon rendez-vous en dernière minute. Donc voilà, je lui fais de la pub pour compenser. Non, mais il me disait, par exemple, il n'arrive pas à recruter de coiffeurs dans le salon de coiffure. Et même dans les écoles de coiffure, les gens ne viennent plus. Regardez ce qui se passe également dans l'Inde. Vous avez un très bon routier, qui est le plus gros routier de France, restaurant routier.
On est d'accord avec ça.
Qui est en face de l'aéroport de Châteauroux qui s'appelle l'Escale. Ce routier est obligé de fermer la nuit parce qu'il n'y a plus de personnel. Donc à un moment donné, c'est qu'il y a d'un côté beaucoup de chômeurs et de l'autre, il y a des emplois qui sont vacants. Donc c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème de formation et il y a peut-être aussi un problème de mérite et de fait de vouloir se lever le matin pour aller travailler. Parce que moi, je commence à en avoir marre qu'il y ait des gens qui chouinent tout le temps, qui se plaignent tout le temps, mais qui ne veulent pas faire l'effort nécessaire pour prendre un emploi, se lever. En effet, travailler, c'est dur. Non. Gagner sa vie, c'est dur. Et je trouve normal que dans un moment où il y a une telle pénurie de main-d'œuvre, mais on réduise un peu les modalités d'attribution de l'assurance chômage. Pour moi, ça relève du bon sens.
Il y a sans doute effectivement des gens qui profitent du système qui est généreux, on est d'accord.
Mais
à mon avis, c'est vraiment
marginal.
C'est assez secondaire. Aux États-Unis, et vous serez d'accord pour dire avec moi qu'aux États-Unis, il n'y a pas ce même système généreux. Quand tu perds ton boulot, tu peux perdre très rapidement tout. Eh bien, exactement le même phénomène. On ne trouve pas de routier, on ne trouve pas de restaurateur. Là-bas, on appelle ça la grande démission. Il y a 30% des emplois non pourvus aux États-Unis. Et pourtant, ils ont un système d'indemnisation chômage beaucoup plus rigide. Moi, je pense que, comme le dit Cauter, ça va au-delà. Effectivement, sans doute qu'il y a de la triche, il y a des gens qui profitent, et ça, on peut les traquer, on peut peut-être durcir pour eux. Mais sincèrement, on passe à côté du vrai problème. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, les gens veulent travailler différemment. Ils ne veulent plus faire certains boulots. Alors, est-ce que c'est pas seulement une question de salaire, c'est une question de sens du travail, etc. Il y a une espèce de révolution qui est en train de se passer dans tous les pays occidentaux. Oui. Et pourtant, les pays ont des systèmes d'assurance chômage différents. Donc vraiment, je pense que si le gouvernement pense régler avec sa réforme le fait que les entreprises n'arrivent pas à trouver du personnel, à mon avis, ils se mettent le doigt dans l'œil.
C'est les métiers dont tu parlais, coiffeur et tout, ça n'attire plus parce que c'est des métiers qui sont pénibles, où tu es debout toute la journée, où tu as des maladies dans les jambes, où tu as de l'arthrose. On a une coiffeuse la dernière fois qui a témoigné, où tu gagnes aussi très peu ta vie. Et donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, les gens, ils ont envie, ils sont conscients qu'ils vont mourir, qu'on est en CDD, et qu'ils veulent aussi profiter des leurs, profiter de leurs enfants, les accompagner à l'école, les accompagner aux devoirs, et plus déléguer ça. D'abord, on ne peut plus le déléguer comme à l'ancienne, à nos parents ou nos grands-parents, parce qu'on habite tous loin de tout le monde, et que les nounous, c'est cher aujourd'hui, et qu'au-delà du tarif, tu as envie de vivre avec tes enfants, et tu as envie de les voir grandir, tu as envie vraiment de vivre différemment. Et les métiers pénibles, tu me parlais encore de chauffeur routier ou travailler la nuit, tu verras que là où il y a une pénurie de main d'œuvre, c'est des métiers qui sont pénibles et qui sont malheureux en termes de pénibilité.
Donc
au
si
travail.
Donc s'ils étaient mieux rémunérés, on trouverait quoi en fait.
Non, c'est pas que mieux rémunérés, c'est aussi parce que c'est pénible en termes de santé. Tu vois, moi demain je peux pas être coiffeuse par exemple, même si je me forme, mes jambes ne me permettent pas d'être coiffeuse. Tu vois. C'est pénible physiquement.
Il y aura toujours des métiers pénibles.
Oui, il y aura toujours des métiers pénibles.
Il faut quand même quelqu'un qui les assure.
Donc,
à un moment.
Il y a les métiers pénibles et il y a les métiers pénibles qui sont en plus mal rémunérés et la combinaison des deux fait que les postes sont vacants tout simplement.
Kevin, Mehdi, non, puis on va écouter Kevin au 32-16.
Je pense sérieusement que ce système a été fait vraiment pour une partie de la tranche des chômeurs, moi ce que j'appelle les chômeurs profiteurs. C'est une très petite partie, je le revendique, mais je le dis. Mais je pense que cette loi a été proposée vraiment pour lutter contre ce fléau. Parce que c'est un fléau.
C'est une erreur.
Moi, je vous le dis, c'est un fléau, d'accord ? Que des gens sont payés à équivalent ou juste un tout petit peu moins à rester à la maison plutôt que d'aller travailler, c'est un fléau, parce que ça ne donne plus envie d'aller bosser, d'accord ? Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on est dans un cas de figure où il y a de l'emploi. Pour la proposition. Enfin, il y a des propositions d'emploi. D'un autre côté, on a des chômeurs, mais que les deux ne matchent pas. Donc, à un moment, il faut juste savoir se poser les bonnes questions. Il y a un problème.
Oui.
Ce problème, il est que il y a une partie de la population, et je précise.
C'est là qu'il faut remettre au boulot.
Et je précise, et je le dis haut et fort que c'est une partie de ces chômeurs, d'accord, qui profitent du système en bossant 6 mois, en s'arrêtant, en rebossant 6 mois, en s'arrêtant 1 an, en ayant, et ben là, ce système-là qui a été proposé, qui va être, je l'espère, voté, je suis désolé de vous le dire, il va mettre un bon coup de pied dans la fourmilière.
Oui, mais ça veut dire que
il ne pénalise pas. Parce que celui qui, mais non, Cauter, mais là, je peux pas aller dans ton sens, parce que celui qui a envie vraiment de bosser, celui qui a envie vraiment de bosser, Cauter, non, mais je te le dis, et qui trouve du boulot, c'est-à-dire où il y a une proposition d'emploi, il va avoir une sorte de filtration en fait. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, ils sont en train de faire quoi ? Ils vont nettoyer en quelque sorte tous les chômeurs qui sont en train de s'inscrire juste pour profiter.
Sincèrement, déjà il faut quand même préciser une chose.
C'est une bonne partie.
Attends, une personne sur deux au chômage ne touche rien. Ne touche pas d'indemnisation.
Oui, exactement.
Voilà. On a même appris que 25%
ne réclamaient pas leurs droits.
Exactement. Bon, déjà, voilà. Après, je suis d'accord avec toi, il y a des gens qui profitent, c'est insupportable, ils vont bosser 4 mois, machin, etc.
Mais
sincèrement, c'est pas là.
Dans toutes les catégories.
Mehdi, je te promets, ça ne réglera pas les problèmes de recrutement.
Donc on ne fait rien.
Non,
je dis pas ça, c'est que je pense que c'est, il faut réfléchir à la façon dont aujourd'hui on veut organiser le travail. Ça ne réglera pas le problème du manque de personnel dans la restauration, du manque de chauffeurs pour conduire les transports scolaires, du manque de profs, du manque de médecins, du manque de... jeunes, parce que par exemple prof, les gens qui veulent pas devenir prof, c'est pas parce qu'ils profitent du système de chômage, c'est parce qu'en fait aujourd'hui ça donne pas envie d'être prof. Ils ont pas envie de faire le même métier pendant toute une vie en étant en commençant à 1007 et pour finir à 2002.
Et voilà,
ils se retrouvent en plus dans des classes avec des gamins insupportables à qui tu peux rien dire parce que sinon les parents te tombent dessus. Ça c'est des vraies questions. D'accord. Et c'est cette loi, c'est technique.
C'est la mi-temps. Mehdi, Kauter, Kevin, Olivier, c'est la mi-temps. Donc on va regarder.
Une défaite de plus pour toi, Olivier.
Modulation des indemnités chômage. Est-ce que ça peut être efficace pour remettre tout le monde au boulot? On va regarder. Attention.
Hey,
51-49.
On peut faire un gros plan sur la tête de Mehdi,
s'il vous plaît.
C'est la mi-temps.
Attendez, 51-49. Non, ce n'est pas efficace. 51, mais c'est très serré. Ça veut dire que dans la deuxième partie de la tout discussion. Va être très important. Capital pour le résultat final.
Perdu contre Olivier.
Appelle tes cousins, ta famille, Mehdi.
Je vais appeler tout le monde là.
Attention.
Marseille, votez.
On en discute avec Kevin. Il est du côté du Nord. Avec Olivier, il est dans la Marne. Chacun a choisi son camp et avec des exemples précis. À tout de suite avec les grandes gueules.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Discussion avec les GG et avec vous au 32-16 sur la modulation de l'assurance chômage en fonction la durée d'indemnisation pourra varier en fonction de la tension sur le marché de l'emploi. Tout va bien, il y a de la croissance, on réduit les indemnités ou le temps de perception de ces indemnités. On est en temps de crise avec un marché qui est compliqué. Là, on peut utiliser mieux ces indemnités. Kevin va en parler avec nous du côté du Nord. Bonjour Kevin.
Bonjour les GG.
Alors, quelle équipe avez-vous choisi? Oui, c'est une bonne chose de moduler ou non, on ne module pas?
Non, on ne module pas. Je suis du côté de Kauter.
Oui, de merci. Kauter et Olivier. Alors, pourquoi, Kevin?
Tout simplement parce que moi, je suis donc demandeur d'emploi. Donc, ça fait un mois et demi que je recherche activement, donc 2 à 3 heures par jour, en regardant les annonces sur les sites de Pôle emploi, Indeed, etc. Dès qu'il y a des offres qui sont à ma portée, CV, lettre de motivation, donc lettre de motivation manuscrite, CV en main, je vais directement déposer en main propre, en espérant d'être rappelé, etc., en étant souriant, en étant dynamique.
Quel secteur d'activité vous cherchez? Dans quel secteur?
Moi, j'ai fait mes études dans le commerce, donc j'ai un bac plus 2 dans le commerce, mais malheureusement, sachant que le commerce, le magasin dans lequel je travaillais à l'époque quand j'étais en études, avait fermé donc, par la suite, parce que le chiffre d'affaires baissait, donc je me doutais bien qu'il fallait que je fasse autre chose dans la vie, parce que c'est un peu compliqué avec le commerce et le e-commerce. Donc après, je me suis réorienté dans le paramédical. Donc je me suis réinscrit pour faire la formation d'infirmier, etc. N'ayant pas eu mon année de très peu, avec cette période-là, j'ai fait des petits boulots, etc. Je voulais me réorienter. J'ai fait cette formation-là l'année dernière. Je n'ai pas eu mon année. Et depuis, là, je recherche activement du travail. Et quand on a 994 euros par mois et qu'on nous enlève 200 euros avec la nouvelle réforme, c'est dur, quoi. C'est dur.
Quoi, hein, ça
comment?
Tu es presque au RSA en fait.
Oui, c'est ça. Donc,
on va juste augmenter la précarité.
Alors que vous n'arrêtez pas de chercher, Kevin. C'est ce que vous nous dites, quoi, en fait. C'est ça.
Et puis,
donc, Kevin, ce que je comprends bien, cette mesure qui est censée, comme le dit Mehdi et Kevin, traquer ceux qui profitent du système, vous tombe dessus alors que vous êtes plutôt de bonne foi. Voilà. J'espère que le ministre du Travail, Olivier Dussopt, il nous écoute.
Mais c'est ça, mais en fait, ils sont un peu déconnectés de la réalité, en fait. S'ils savent que être au chômage, on profite du système, vivez avec moins de 1000 euros et vous verrez bien.
Alors, Mehdi et Kevin, qu'avez-vous à répondre à Kevin? Kevin, que réponds-tu à Kevin?
Non, mais d'accord.
Déjà, il a un beau prénom, tu peux lui dire.
Ah, oh, magnifique, franchement. Si j'avais un enfant, je ferais ce choix, évidemment. C'est tellement. Très fier d'avoir ce magnifique prénom.
D'ailleurs, il semblerait que tu en aies un autre, c'est ce que disent les internautes.
Mais non, je n'en ai qu'un, malheureusement, parce que sinon, j'en aurais choisi un autre, hein, je t'assure, Kauter.
Donc, arrêtez les ragots sur Twitter.
Alors, Kevin.
Kauter s'appelle Jacqueline, par exemple, elle ne veut pas le dire.
Ouais, non, mais je comprends, évidemment, la situation dans laquelle vous êtes. Je ne vous juge absolument pas et je suis de tout cœur avec vous. j'espère que vous allez retrouver évidemment du travail. Mais ça n'enlève pas aussi le fait qu'il y a des gens qui profitent en effet du système. Et moi, je pense toujours à l'intérêt général et au maintien du pacte social. L'assurance chômage, c'est aussi nos impôts. Et quand vous avez des gens qui se lèvent tous les matins à 5h ou 6h pour travailler, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts et qui voient en rentrant chez eux des gens qui touchent des aides sociales et qui n'ont rien fait de la journée, qui n'ont même pas essayé, qui n'ont même pas essayé de chercher un emploi, mais ce n'est plus possible. Moi, je pense aussi à ça. Et dans un pays civilisé, dans un pays, voilà, je pense qu'il faut aussi donner un message. Et le message que l'on doit donner, c'est un message pour revaloriser le travail, revaloriser le mérite. Et moi, j'en ai marre, en effet, de l'assistanat. J'en ai marre de ces aides sociales. J'en ai marre de ces gens qui nous racontent qu'ils ne bossent pas, mais qui, à côté, vont travailler au noir ou je ne sais pas quel truc. Moi, je ne peux plus de ça. Alors, ça n'enlève rien à votre situation. Et je suis convaincu, parce que vous êtes quelqu'un de motivé, que vous allez retrouver rapidement un emploi. Et quand vous aurez votre emploi, je suis sûr que vous serez de notre côté.
Pas forcément, parce que une allocation chômage, même si je gagnerais bien ma vie plus tard, ça reste tout le monde peut être.
Mais
au
vous,
chômage.
Kevin, vous, parce que vous êtes alors, éduqué comme ça, parce que vous avez justement cette envie de bosser.
Mais
il y a des gens, excuse-moi, Kauter, mais il y a des gens, Kevin, et c'est un fait, d'accord. Il faut arrêter de se voiler
combien,
la face.
Il y en a combien des gens.
Excuse-moi, Olivier, arrêtons de se voiler la face en disant comme quoi tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est honnête, tout le monde. Il y a des gens qui font de ça un véritable business.
Oui.
Où ils sont déclarés au chômage toute l'année, qui bossent pendant 4 mois, 5 mois, après qui se redéclarent au chômage, remarquez une chose,
en tant que chef d'entreprise.
Bien sûr qu'on en a, mais il y en a qui refusent des emplois qui te disent que 1 800 € pour 35 heures, c'est pas assez parce que alors je t'explique bien, attention de pas tomber aussi dans la caricature, c'est que il touche pas 1 800 € lui de salaire. Au chômage. C'est pas ça ce que je suis en train de te dire. Mais quand tu lui donnes 1800 balles, lui, de salaire et qu'il a des gamins, tout ce qu'il perd en crèche, cantine, Navigo, RATP, la CMU, quand il est au chômage, même si tu lui donnes 1 800 € et qu'au chômage il touche que 1 000 €, 1 200 €, la compensation fait que elle est tellement basse qu'il préfère rester chez lui.
Mais que bosser. Mais caractère, moi,
justement, le projet de loi Kauter,
pour qui justement, elle est repoussée.
Combien de personnes?
Remarque comme par hasard, tu n'as jamais remarqué qu'avant les vacances, toujours le chômage augmente et que dès qu'à la rentrée, le chômage baisse. Pourquoi, Olivier?
Parce que les gens se mettent au chômage,
qui s'arrangent pour partir en vacances tranquilles pour toucher le chômage.
Mais tu sais très bien, si tu t'en vas, si tu fais un abandon de poste.
Je remercie Kevin d'avoir donné son exemple.
Attends.
Kauter, parce que justement, après Kevin qui t'a expliqué que. Kevin nous a expliqué, Mehdi, s'il te plaît, qu'à 28 ans, il n'arrêtait pas de chercher. C'est Olivier qui est avec nous, artisan pâtissier. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour les amis.
Alors, est-ce que vous pensez que la modulation peut aider à remettre les gens à l'emploi?
Non, absolument pas. Je goûte depuis tout à l'heure à vous expliquer, je suis fou. Voilà, une chose, pour remettre les choses dans le contexte, je vous invite tous à prendre votre bulletin de salaire et regarder les cotisations au chômage. Mmh. Et aujourd'hui, les salariés ne cotisent plus au chômage. C'est l'employeur qui cotise au chômage. Mmh. En l'occurrence, quand j'entends parler, j'ai le droit au chômage parce que j'ai cotisé. Non, c'est faux. Depuis 2018, les salariés ne cotisent plus au chômage. J'ai sous les yeux la feuille de salaire d'un de mes salariés.
Sont les cotisations patronales.
Voilà. Hein, sur 2 170 € brut de salaire, je vais cotiser 90 € au chômage pour mon salarié. Mon salarié va cotiser zéro. Donc aujourd'hui, moi, je suis ulcéré d'entendre à tout bout de champ, je cotise, j'ai le droit au chômage. Non, alors, les supprimer...
J'aime bien Olivier, gentil. Hein.
Supprimer le chômage, non, bien sûr, je suis contre.
Si, supprimer le chômage.
On a besoin, effectivement...
Non, on a besoin du chômage pour des vraies personnes qui ne profitent pas du système.
Aujourd'hui, on peut être aidé pendant 18, 24 mois en touchant 70-80% son salaire. Mais non, on va où? Effectivement, on a entretenu le système pendant des années. Aujourd'hui, après une pandémie, tout le monde se remet en question, se dit « Oh bah tiens, je me recentrer. Qu'est-ce que je vais faire? Ah bah, je vais arrêter. Je vais,
je vais plus venir travailler comme ça, je vais quand même avoir le droit au chômage, et puis pendant un an, je vais réfléchir à ce que je vais faire de mon avenir. Mais qu'est-ce qu'on inculque à nos enfants?
Il y a plein de gens qui ont créé leurs entreprises après le Covid, il y a plein de gens qui sont partis vivre à la campagne, qui ont vendu leur appartement dans les villes, qui ont décidé de vivre différemment. Il n'y a que des profiteurs, en fait, monsieur, dans ce pays.
Je
ne
parle pas que des profiteurs, mais je dis qu'aujourd'hui, effectivement, le système est arrivé au bout. Aujourd'hui, on ne cotise plus au chômage. Il y a un moment, il faut redescendre sur terre. L'argent ne rentre plus.
Olivier, vous êtes artisan pâtissier.
Exactement.
Vous avez besoin de recruter du monde en ce moment?
Non, moi j'ai réussi à retrouver.
Ça marche.
Donc dans mon secteur, je ne me plains pas. Mais j'ai plein d'amis autour de moi, que ce soit en restauration, que ce soit dans la vente. Les gens veulent pas travailler, effectivement.
Il faut revaloriser le travail et payer mieux les gens, monsieur. Mais tant qu'on ne fera pas ça, on n'indiquera pas le chômage, je suis désolée. Le problème, c'est pas les indemnités. Le problème, c'est qu'on est mal payé quand on travaille et qu'on ne vit pas de son salaire.
Je suis pas allé contre. Excusez-moi, Olivier. Je suis pas allé dans ton sens. Il y a aucun souci. On paye encore mieux les ouvriers, c'est normal.
C'est pas ce que propose le gouvernement.
Excuse-moi, je suis désolé de te le dire, mais si je paye plus les ouvriers, ça veut dire que t'as vu quand tu vas aller chez le coiffeur, tu vas payer plus cher. Quand tu vas acheter ta baguette de pain, tu vas payer plus cher. Laisse-moi finir, s'il te plaît, Kauter.
C'est pas le moment.
Voilà, tout va être beaucoup plus. Mais si tu payes encore plus, ça veut dire que si tu rajoutes déjà à l'inflation actuelle,
c'est une théorie économique,
une revalorisation salariale. Ok, moi je te l'ai déjà dit, Kauter. Et je l'ai dit ici,
ça tient pas
baissez-moi
trop la route,
les charges, je rajoute des.
Non, mais ça tient pas trop la route.
C'est normal, parce que s'il y a des charges. Mais regarde, alors on fait un truc, j'augmente les salaires, enlevez-moi la charge par rapport au chômage. Je l'enlève, je la rajoute aux salariés. Tu as vu, là, il te dit sur un salarié, il paye 90 euros. Et ben moi, les 90 euros du chômage, je les enlève, je les donne aux salariés. Ça me dérange pas.
Fais pas ta Kauter. C'est une vanne. Mais, enfin, quoique. Non, mais tu peux pas, Mehdi. Tu peux pas, Mehdi, nous expliquer. Expliquer que quand on augmente les salaires, ça fait augmenter l'inflation. Là, on a une inflation alors que les salaires n'ont pas bougé. Ça, c'est une théorie économique qui est assez contestée. Donc, il faut fortement augmenter les salaires. Et là, effectivement, peut-être qu'à ce moment-là, tu peux supprimer, l'allocation chômage.
L'allocation chômage pour l'employeur.
C'est-à-dire que les salaires ne bougent pas. En revanche, on se dit,
Olivier,
moi, je te le dis, on me dit, baisse tes charges, augmente tes salaires. Je le fais tout de suite, je le signe tout de suite. Mais c'est normal. Mon salarié va être encore plus heureux. C'est normal.
T'as perdu, Mehdi, cherche pas.
Fin du match. Ah, bah attends, on va voir. On va voir.
Ça, c'est pas
modulation des indemnités chômage efficace. Oh, 50 ans. Incroyable. Je crois que c'est la première fois que ça arrive.
Comme hier pour Paris.
Oh merde, j'aurais dû.
C'est du coup, on enlève l'émission d'Estelle et on continue.
Mais non.
50.
Je crois que c'est
jamais arrivé.
Je crois que c'est la première fois que ça arrive.
Non, mais c'est surtout la première fois que Olivier Truchot n'a pas perdu contre moi. C'est ça que je.
Il y a une fracture française.
Mehdi, blague à part, c'est une vraie question.
Oui, en tout cas, c'est une question qui divise les Français.
Les Français sont divisés sur ça.
Bonjour, allez. Estelle.
Bonjour, ma chère Estelle.
50-50, merde, quelle chance.
Salut les GG.
Salut, ma Estelle.
On va parler de quoi aujourd'hui? De la pénurie d'essence, évidemment. Non, je suis. Je ne mange plus de sucre.
Non, si t'as une émission à faire, non.
Non.
Tu manges plus de sucre?
Bah, non, mais là, en plus, des macroutes, là, comme ça, à ce temps-là, non, c'est pas possible. Bon. On va parler de la pénurie d'essence. Est-ce qu'il faut rationner à la pompe? C'est-à-dire dire aux Français, c'est 20 litres et pas plus, par exemple.
T'imagines.
On parlera du plan de sobriété énergétique dévoilé par le gouvernement. Est-ce que vous allez jouer le jeu? Et puis, 14h, cette question. Est-ce que flirter, c'est tromper, Alain?
Ah ouais. C'est marrant, la question est posée à toi.
Bah oui.
C'est bizarre, hein,
le
James Dean de RMC de BFM.
Parce que c'est marrant, bah il oui. y a que 47% des hommes qui pensent que oui,
c'est quoi,
contre
61%
des femmes.
C'est quoi flirter?
Flirter, c'est tout ce qui n'est pas physique. C'est-à-dire que tu ne touches pas, tu n'embrasses pas. En revanche, tu envoies des textos, tu bois un café. Mais tu ne le dis pas à l'autre.
C'est draguer.
C'est un peu des bisous.
C'est draguer, c'est flirter.
Bah, draguer, Kauter, elle met un peu des bisous quand même. Tu mets t'as l'option bisous.
Ah bah si en plus, bah non.
Bah draguer, c'est déjà
flirter,
un peu tromper.
C'est tromper. Attends, c'est un petit sondage express.
Alors allez-y, Mehdi.
Non, ah bah, Mehdi.
Ça pourrait étonner, tiens.
Non, Kevin.
Si,
moi,
oui.
Bah oui.
Oui,
bien sûr.
Bien sûr.
Oh là 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 là.
Bah oui.
Olivier, je t'ai connu plus. Hein. Bah, quand tu dragues, tu.
Mais tu dragues pas,
tu vas voir la tromperie.
Un texto.
Bah oui, c'est ça, oui, mais avec quel pensée derrière?
Il n'y a pas de arrière-pensée.
Oui, bah tiens, allez, arrêtez. Mais on n'est pas des animaux, c'est pas parce que tu envoies un texto, tu fais un compliment à une femme que tu as envie de.
Les gens bien devant la télé, vous êtes.
Okay, mais si ta femme Olivier. Fait un compliment.
Ça y est, t'as fait. Oui, mais arrête, tu fais le débat.
Et si Anna texte jusqu'à 2h du matin avec un beau jeune homme,
sans j'en suis.
C'est un très beau sujet.
Là, c'est pas pareil.
On se retrouve demain. débattez bien. La question a déjà enflammé. Voilà, a déjà enflammé les GG avec Estelle. On se retrouve demain avec
Kaouter Ben Mohamed, évidemment, fondatrice de l'association Marseille en colère, Mourad Boudjelal, éditeur de bande dessinée, et Thomas Porcher, professeur d'économie.
Passez une bonne journée. N'oubliez pas les podcasts pour retrouver les GG sur l'appli RMC, rmc.fr, et à demain 9h.
RMC, midi 15h, Estelle Midi.